Ok, donc on va commencer aujourd'hui le cours. On est à la page 21B3. Alors de quoi on en était? La semaine dernière, on avait amené une machloket entre Abaye et Rava sur le concept de Yehush Shelomidat. Ça veut dire quoi Yehush Shelomidat? Le concept de Yehush, ça veut dire abandonner. On a expliqué que selon la Torah, tant qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas estimé qu'un objet est abandonné, on n'a pas le droit de, même si je le trouve, j'ai pas le droit de le prendre. Alors, c'est quoi le concept de Yehush Shelomidat? Yehush Shelomidat, ça veut dire, s'il y a un objet, que maintenant je ne sais pas si les propriétaires l'ont abandonné ou pas, mais je pense, on estime que dès que le propriétaire va se rendre compte qu'il a perdu, il fera Yehush sur place. On a donné l'exemple, par exemple, d'un portefeuille. C'est un portefeuille, peut-être que je ne me suis pas encore rendu compte que je l'ai perdu. Peut-être que le propriétaire va se rendre compte qu'il a perdu seulement dans 3 ou 4 jours. Mais dès qu'il va se rendre compte, il fera Yehush, il va abandonner. Donc est-ce que moi, quand je trouve le portefeuille, même si je ne suis pas sûr que le propriétaire a déjà abandonné, est-ce que je considère que l'objet est quand même est déjà considéré depuis maintenant comme Yehush? Donc on appelait ça en français le concept du Yehush rétroactif. Est-ce que Yehush rétroactif, ça existe ou pas? On a eu machloket entre Abaye et Rava. Qu'est-ce qu'a dit Abaye? Abaye a dit que ce n'est pas un Yehush. Il a dit, tant que tu n'es pas persuadé que la personne a fait Yehush, par exemple, s'il est tombé au fond d'un fleuve, voilà, t'es sûr que la personne a fait Yehush, tant que tu n'es pas persuadé que la personne avait Yehush, ça ne peut pas être considéré Yehush. Ça, c'est l'avis d'Abaye. Donc, selon Abaye, est-ce qu'il y a Yehush rétroactif, M. Bismuth?
Non.
Selon Abaye, c'est avec nous?
Ah,
selon Abaye, est-ce qu'il y a Yehush rétroactif? Il n'y a pas de Yehush rétroactif. Le avait Yehush. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Rava dit oui, Yehush rétroactif existe. D'accord? Bon, ça c'était la Gemara la semaine dernière. Ensuite, la Gemara a essayé d'amener des preuves de chaque côté. Parce qu'il ne faut pas oublier que le concept de Rava est révolutionnaire. Le concept du Yehush rétroactif. Que même si je ne sais pas si le Yehush a déjà été fait, mais puisque je pense que il va être fait plus tard, donc rétroactivement, je dis que le Yehush est déjà fait. C'est très révolutionnaire comme concept. D'accord?
Quand il s'en apercevra, il renoncera immédiatement.
Donc, depuis maintenant, je considère qu'il y a déjà renoncé. C'est très révolutionnaire comme concept. Donc, on a amené 5 preuves. 5 preuves, on a amené. On a amené 5 preuves, 5 cas, qui pourraient, a priori, appuyer la manière de voir les choses de Rava, que Yehush rétroactif, ça existe. Et chacune de ces 5 preuves, on les a cassées. Quand je dis on les a cassées, ça veut dire on a prouvé que les 5 cas parlaient d'autre chose. Ce n'était pas un cas similaire à notre cas, donc ce n'était pas comparable. Donc on n'a toujours pas de preuves, ni pour Abaye, ni pour Rava. Et la Gemara, elle va aller loin comme ça. Je ne sais même pas si on finira les cas aujourd'hui, peut-être qu'on les finira la semaine prochaine. Les cas qu'on va essayer d'amener pour prouver ou l'avis d'Abaye ou l'avis de Rava. Donc là, on a tout de suite 21B3, au milieu de la colonne, vers le bas, pardon, de la colonne de gauche. Tashma. Bien, écoute. Mais matai koladam mutarim beleket. Là maintenant, on va essayer d'amener une preuve pour Rava toujours. Rappelez-vous, Rava, c'est celui qui a été révolutionnaire, celui qui a dit que Yehush rétroactif, ça existe.
Révolutionnaire.
Donc, on va amener une preuve de Mishnah qui est écrite dans Maseret Pea. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Tashma, viens, écoute. C'est écrit comme ça. Mais matai koladam mutarim beleket. À partir de quand tout le monde a le droit de se servir du leket. C'est quoi le leket? Le leket, ça fait partie des cadeaux qu'on doit laisser aux pauvres pendant la récolte. C'est quoi ces cadeaux-là? C'est que, la halakha est comme ça, si celui qui a récolté, pendant qu'il récolte, il a un épi ou deux qui tombe de sa main, et qui tombe par terre, à ce moment-là, ils sont considérés comme leket. Et ça veut dire quoi la définition de l'équette? Ça veut dire que le propriétaire du champ n'a plus le droit de les prendre, on doit laisser pour les pauvres. D'accord? Alors, quand on dit pour les pauvres, Maïmonide explique que c'est les pauvres juifs. C'est réservé pour les pauvres juifs, les pauvres qui viennent du peuple juif. Ça s'appelle le l'équette. Très bien. Alors, normalement, comme je viens de vous expliquer, c'est réservé que aux pauvres, pas à tout le monde. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quand c'est réservé aux pauvres? Pendant combien de temps? Combien de semaines? Combien de mois? Combien de jours? Après la récolte. Est-ce que c'est à vie? À déterminable, c'est fini, ça appartient aux pauvres?
Mais oui, si les pauvres ne viennent pas le chercher.
Si les pauvres viennent pas le chercher, qu'est-ce qu'on fait? Ah, parce que les quêtes, ça arrive très souvent. Tu me dis une gerbe qui tombe, je la laisse. Ok, je la laisse. Mais combien de temps je la laisse? Et si quelqu'un d'autre y passe, il peut pas se servir? Alors, écoutez bien ce que dit la Mishnah dans Maseret Péa. Mais Matay Koladam Mutarim Beleket, à partir de quand tout le monde a le droit de se servir du Leket, ça veut dire même ceux qui ne sont pas pauvres ont le droit de se servir. Michel Chouba, à Nemouchot. À partir du moment où les Nemouchot vont passer. Alors, c'est quoi les Nemouchot? Hein, tout de suite, je vais même vous expliquer parce que la Gemara pose la question. C'est quoi les Nemouchot? Apparemment, il y a un phénomène qui s'appelle Nemouchot. Dès que ce phénomène est passé, on est persuadé que l'objet, que les épis sont déjà abandonnés et tout le monde peut s'en servir. Ve'amrinan, et on dit, dans l'explication de cette Mishnah, alors ça, en vérité, c'est expliqué dans le traité Ta'anit. Maï Nemouchot, c'est quoi Nemouchot? Tu me dis, depuis que les Nemouchot vont passer, c'est quoi les Nemouchot? Ve'ama Rabbi Yochanan a dit, Savé de Azle à Tigra, ça veut dire quoi? Ça veut dire des vieux, d'accord, qui marchent à Tigra avec une canne. Donc c'est-à-dire des pauvres qui sont âgés et qui marchent avec une canne. Et alors qu'ils marchent avec une canne, on a un principe qu'on dit dans la Gemara, qui est expliqué dans la Gemara Ta'anit, que les gens qui marchent doucement sont beaucoup plus observateurs que les gens qui marchent vite. C'est logique. D'accord? Les gens qui marchent doucement, ils remarquent tout. Alors, imaginez-vous ces pauvres qui sont vieux, d'accord? Donc ils marchent doucement. Et pourquoi ils viennent dans les champs? Ils viennent dans les champs pour chercher ces épis qui seraient tombés. Donc le pauvre vieux qui est observateur, comme il marche doucement, il regarde tout. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que Mishash et Yelchouba Anemouchot, ça veut dire que dès que les pauvres, premier avis c'est l'avis de Rabbi Yochanan, il dit, dès que les pauvres qui marchent doucement sont déjà passés, et que normalement s'il y avait des épis, ils les auraient déjà vus, d'accord? Dès que eux ils sont déjà passés, les autres, aucun pauvre ne passe derrière eux. Vous me suivez? C'est ce que dit la Gemara dans Maseret Péa. Elle dit que dès qu'on a entendu que les vieux sont passés, les pauvres s'y disent ça, et si les vieux sont passés, on n'a plus de chance de retrouver. Ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Que Misha Shiel Khouban et Mouchat, ça veut dire quoi? Ça veut dire dès que les vieux sont passés. Dès que les vieux sont passés, les autres pauvres abandonnent. Ça, et si les vieux sont passés, il n'y a plus rien à chercher. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rash Lakish Amar, Rash Lakish dit non. C'est pas ça, Nemouchot. Nemouchot, c'est la côté, bâtard la côté. Ça veut dire quoi, la côté, bâtard la côté? Ça veut dire les ramasseurs qui sont venus après les ramasseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu un premier groupe de pauvres qui est venu pour chercher ce qu'il y avait dans le champ. Très bien. On a eu un deuxième groupe de pauvres qui est venu passer par derrière. Et là, on dit une fois que les gens, ils savent, les pauvres, ils savent entre eux, ils ont des réseaux pour savoir qui est passé dans quel champ. D'accord? Une fois qu'on sait, on le trouve, ça, que les pauvres, ils sont au courant. On le voit, on le trouve aussi chez les schnorrères. Les schnorrères, je sais pas comment ils vont, mais dans les synagogues en Israël, on voit, ils sont au courant de toutes les synagogues. Ils sont au courant qui est passé dans quelle synagogue et où ça a marché, où ça a pas marché. Mais c'est des pros. Et dès qu'il y a une synagogue qui commence à marcher, mais très très fort.
Tu viens pas dans mon coin, c'est mon coin.
C'est pour ça que quand je vois la Gemara ici, je comprends à 100% ce qu'est-ce qu'on est en train de dire. Donc on a deux avis, Rabbi Yochanan et Rash Lakish. Rabbi Yochanan il dit, c'est quoi des mouchottes? C'est dès que les personnes âgées sont passées. Que là on considère que, à partir du moment que les personnes âgées sont passées dans le champ, tout le monde peut venir prendre ce qu'il y a dans le champ. Pourquoi? Parce que les pauvres ont déjà fait Yéhouch, ont déjà abandonné ce qu'il y a dans le champ. On dit ça, et si les vieux sont passés, il n'y a plus rien. Alors que c'est possible qu'il reste. Donc si moi je passe et je trouve quelque chose, je peux prendre. Ça c'est la vie de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il dit Rash Lakish? Rash Lakish dit non. C'est pas ça Nemouchot. Nemouchot c'est quand il y a eu deux équipes qui sont passées. Deux équipes de chercheurs qui sont passées. Que là, à ce moment-là, les pauvres ont fait Yéhouch. Les pauvres éventuels qui auraient pu venir, ils disent ça ici, il y a deux équipes qui sont passées, on repasse plus là-bas. Donc moi qui n'ai pas pauvre qui passe par derrière, si je trouve un épi, est-ce que je peux le prendre?
Oui.
Oui. Parce que
le propre propriétaire, il peut le ramasser.
Oui, tout le monde peut prendre. Alors écoutez bien comment la Gemara maintenant elle va analyser ce cas. Elle va prendre ce cas, elle va en faire une preuve pour Rava.
C'est quoi les équipes? Deux équipes.
Quand tu dis les équipes, ça veut dire que les pauvres, ils viennent pas tout seuls, ils viennent par groupe comme ça. D'accord? Ils viennent par groupe.
À deux équipes de pauvres.
Voilà, deux équipes de pauvres, ils sont déjà passés. Ouais, donc...
C'est un taux de prou quand même.
Tu as entendu, l'autre il a fini sa récolte. Allez, on peut y aller.
Et là, ils ont
des grands informateurs. Mais je vous le dis
sans... Ils peuvent pas tous passer ensemble. Il y a une façon de...
Non, il y a le premier qui... Ça veut dire comme ça. Il y a un premier groupe qui est passé. Après, il y a un deuxième groupe qui a entendu. Ils sont repassés encore. Ils disent, bon, peut-être que le premier groupe n'ont pas tout vu. Mais une fois que deux groupes sont passés, après on dit ça, ils ont déjà tout trouvé. Hein, les autres, on va pas aller pour quelques centimes.
Parce qu'il faut rappeler que les glanures, que les gaz, ils viennent, on va pas les ramasser. Bon,
c'est même pas que le jublé, hein. Ça peut être les glanures, ça peut être les pommes de terre.
Tout. Ça s'appelle les quêtes. Alors, écoutez bien comment la Gemara va analyser ce cas. Pose la question, elle dit, va maï, et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu me dis que à partir de ce moment-là, peu importe, Rabbi Yochanan ou Rash Lakish, tu me dis que dès que les Nemouchot sont passés, on a eu deux explications de Nemouchot, dès que les Nemouchot sont passés dans le champ, tout le monde peut prendre ce qu'il y a dans le champ. Regardez bien la question que pose la Gemara. Nehi danim de Achamiyash, et bien que les pauvres d'ici ont déjà fait Yehouch, qu'est-ce qu'on a expliqué? Les pauvres d'ici, ils ont déjà fait Yehouch. Pourquoi ils ont fait Yehouch? Parce que, ou bien il y a deux groupes qui sont déjà passés, ou bien il y a les personnes âgées qui sont déjà passées. Très bien. Tu as raison, les pauvres de la ville ont déjà fait Yehouch. Mais, Ika, Ani, Medursa, Harita, il y a des pauvres qui se trouvent ailleurs, dans une autre ville. Ces pauvres-là ne sont pas encore au courant que deux groupes sont passés. Donc ces pauvres-là, est-ce qu'ils ont fait Yehouch? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que le Leket appartient à qui? Le Leket appartient aux pauvres. On n'a pas dit qu'il appartient aux pauvres de la ville. C'est ça que le commentaire explique. Ça appartient pas aux pauvres de la ville, ça appartient aux pauvres du monde entier. Il faut être pauvre, c'est tout. Celui qui vient de Honolulu, lui, il vient, il est pauvre, il peut prendre. Alors, Agmara pose une question très simple, deux secondes, j'ai une question à te poser. C'est vrai, tu as raison, qu'après que les Nemouchot sont passés, on a expliqué ce que c'est Nemouchot, les pauvres de la ville ont fait Yehouch. Mais les pauvres des autres villes, il y a des pauvres dans les autres villes, est-ce qu'eux, ils sont au courant qu'il y avait un champ et qu'il y avait... Ils sont rien au courant de tout ça. Donc peut-être que eux, si on serait venu les voir, et si on leur aurait dit, vous savez, il y a un champ et il y a des choses à prendre, peut-être qu'ils n'auraient pas fait Yehouch. Comment dit l'Agmara? Donc, Ikaani Bedurta Harita, il y a des pauvres dans d'autres endroits, des lomes yachés, que peut-être eux n'ont pas encore fait Yehouch. D'accord? Donc seulement quoi? Alors là, encore une fois, la Gemara veut nous amener une preuve sur le concept de Yehouch rétroactif. Que tu dis, voilà bien, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava a dit le concept de Yehouch rétroactif. Qu'on imagine que quand une personne saurait, si la personne le savait, tout de suite, elle aurait fait Yehouch sur son portefeuille, donc je dis que depuis maintenant qu'elle a déjà fait Yehouch. C'est la seule manière d'expliquer ce cas, le cas des Nemouchot. Que même si les pauvres de Lyon n'ont pas encore fait Yehouch, parce qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe à Paris, mais on estime que même s'ils savaient ce qui se passait à Paris, si quelqu'un serait venu leur raconter maintenant, il leur a dit, vous savez, voilà, il y a eu un champ, il y a eu deux groupes qui sont déjà passés, ils auraient aussi fait Yehouch. Donc on considère depuis maintenant qu'ils ont déjà fait Yehouch. Donc après vous, il dit la Gemara.
Il faut qu'il y ait le deuxième groupe soit passé.
Oui. Qu'est-ce que dit la... Oui, mais le problème, c'est que les pauvres de Lyon sont pas au courant de ça. La Gemara pose une question très simple. Elle se dit, puisque ça appartient aux pauvres du monde entier. Donc comment tu me dis que dès que deux groupes sont passés à Paris, tout le monde peut se servir? Non. Les pauvres de Lyon sont pas encore au courant. Peut-être que les pauvres de Lyon n'ont pas encore fait Yehouch. C'est pas peut-être, c'est sûr. Ils sont même pas au courant qu'il y a un champ. Donc
ils ont
pas...
que c'est la moisson partout.
Alors, et...
Eh ben alors, ils vont peut-être faire Yehouch en se disant, puisque ici on a des moissons, là-bas aussi il y a des moissons, mais c'est loin, le temps qu'on arrive, il y aura peut-être d'autres pauvres comme nous qui auront...
Ça, c'est la réponse d'Agmar. Ça, c'est la réponse d'Agmar. Ah bon? Vous dites, c'est la réponse d'Agmar. D'accord, pour l'instant, on est dans la question.
Moi, ce qui me pose problème, c'est le deuxième groupe. Si le premier groupe qui est passé, il ne fait pas Yehouch, pourquoi le deuxième groupe peut passer?
Non, c'est là, là on ne parle pas ni du premier ni du deuxième groupe. On parle de la personne lambda qui vient, qui veut venir, qui trouve un épi, qui veut le prendre. Il dit, est-ce que je peux le prendre ou je peux pas le prendre? Alors on lui répond comme ça. On lui dit, s'il y a deux groupes qui sont déjà passés, les pauvres de la ville ont déjà abandonné, ils ne vont plus repasser.
Donc ah, puisqu'ils ont... Bizarre, on parle même pas de
oui.
Groupe, là.
Puisqu'ils ont déjà abandonné, puisqu'ils ont déjà abandonné, donc moi je peux prendre, parce qu'ils ont déjà fait Yehouch.
Le propriétaire du terrain peut revenir prendre ce...
Ouais. C'est sûr, sans problème. Il ne va pas revenir pour un épi. Il sait qu'après deux équipes de pauvres sont passées, il n'y a plus rien. Mais s'il passe et il trouve, il peut prendre. Parce qu'il y a deux équipes qui sont déjà passées. Ou bien il y a les vieux qui sont déjà passés. Deux manières de voir la chose. Alors, il y a Rabbi Yochanan ou Rash Lakish, peu importe, c'est la même chose. Donc regardez la question de la Gemara. La Gemara pose une question, elle dit, mais je comprends pas. Si tu me dis que Yehouch rétroactif, ça n'existe pas, alors je pose une question, les pauvres de Lyon, ils sont pas encore au courant. Ils sont pas encore au courant qu'il y a une récolte, qu'ils ont pas fait Yehouch. Seulement quoi? Tu es obligé de dire, comme Rava a dit, que puisqu'on sait que quand ils seront au courant, ils vont faire Yehouch, donc on va anticiper, on va dire que rétroactivement, c'est comme si le Yehouch est déjà fait. Donc a priori, preuve pour Rava. Que Yehouch rétroactif, ça existe. D'accord?
D'accord, mais d'où on sait que le premier groupe de pauvres, lui, il a le droit de
prendre. Leket, c'est le Leket, ça. Ça s'appelle Leket. C'est mitzvah de la Torah. C'est écrit comme
c'est
ça. Quand tu vas passer dans ton champ, d'accord? Et que quand tu vas faire ta récolte, tu vas faire tomber un ou deux épis, tu dois les laisser par terre. C'est le pauvre qui viendra les prendre.
Donc ça confirme la vie de Rava, ça.
Que quoi?
Donc il y a Yehouch rétroactif.
Yehouch de qui?
Non, il y a aucun...
Tu veux dire, oui, ce qu'on vient d'expliquer.
Oui.
Que, puisque, avec les pauvres de Lyon.
Oui.
Bien sûr, ça confirme la vie de Rava.
Non, avec le pro- premier groupe, si la Torah te dit que le, si tu as un épi dans la main et que tu le laisses tomber, etc., ça appartient aux pauvres,
oui.
Ça veut dire que tu as fait Yehush.
Moi, j'ai pas fait Yehush. La Torah me dit que tu dois le laisser. C'est une mitzvah.
Mais tu as fait Yehush, forcément.
Non. La Torah me... Tu parles du propriétaire ?
Oui.
Non, la Torah me dit que tu dois le laisser. Moi, je l'ai laissé, c'est fini. Pour moi, il est au pauvre.
Mais donc, tu as fait Yehush, alors ?
J'ai pas fait Yehush, je le donne au pauvre.
Une ordonnance.
C'est une tzaka. C'est une mitzvah de la Torah. Je le donne au pauvre.
D'ailleurs, c'est même un interdit de les ramasser.
La différence, c'est celle, par exemple, je vais continuer, c'est celle de la personne qui ramasse sa moisson, qui laisse tomber. Là, il ne fait pas Yehush.
On va pas se compliquer de ce... Excuse-moi, je t'arrête. Oubliez le propriétaire. Oubliez le propriétaire. On va dire que la personne qui vient... C'est pas du tout de ça qu'on parle. La personne qui vient maintenant, la personne lambda, c'est une personne qui n'est ni propriétaire ni pauvre. Voilà, c'est moi, Mendy Souline, je viens dans le champ. Je suis ni propriétaire ni pauvre.
Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?
D'accord.
C'est loin, arrête.
Je me balade avec ma famille et je trouve un épi par terre. Ça peut être un épi, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être une pomme de terre. Je trouve une pomme de terre par terre. Je dis, ah tiens, ma fille, à la fin, je vais lui donner la pomme de terre. Ah, mais peut-être c'est le propriétaire qui l'a fait tomber, ça appartient au pauvre. Qu'est-ce que je fais ? Je peux prendre, je peux pas prendre. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan et Reish Lakish, ils te disent, si tu sais qu'il y a déjà deux équipes de pauvres qui sont passées, ou bien, si tu sais qu'il y a déjà les vieux qui sont passés, tu peux te servir. Pourquoi ? Parce que les pauvres de la ville ont déjà abandonné. Donc, puisque les pauvres de la ville ont déjà abandonné, ça leur appartient plus, puisqu'ils ont déjà abandonné. Très bien. C'est pour ça qu'on a posé la question, on a dit, oui, mais les pauvres de la ville ont abandonné, mais peut-être les pauvres d'une autre ville n'ont pas, eux n'ont pas abandonné. Ils sont pas au courant. Seulement quoi ? Tu es obligé de dire, comme ce que Rava a dit, que puisqu'on sait que dès qu'ils seront au courant, ils vont abandonner, donc rétroactivement, c'est déjà abandonné. La Gemara répond à la question de, avec la réponse de M. Bismuth.
Elle
dit, bien sûr,
trois points. Et ça va en contre sens de ce qu'on disait avant, quand la personne abandonne des produits, ouais. Il doit faire Yehush. Ouais. Parce que là, c'est dans le champ que ça pose pas le même problème, parce qu'on a étudié
avant, on avait parlé...
La personne qui laisse tomber dans une telle surface qui laisse tomber tant, on se dit qu'il ne veut pas aller les ramasser.
Avant, c'était pas dans le champ. Avant, c'était pas dans le chemin.
Ouais. C'est parce que c'est dans le champ que le problème se pose.
L'air de bataille.
C'est le leket, la mitzvah de leket, c'est la mitzvah de la Torah. Ouais.
Et là, il est dans le champ, donc on parle sur le leket. On parle plus sur
la marloquette Abaye Rava.
C'est même plus une...
Bien sûr, on parle marloquette Abaye Rava.
Mais si, c'est ça.
Bon. Réponds la Gemara. Amré, on
répond.
Kevan deikanim acha. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara ? Elle dit non, c'est la réponse de M. Bismuth. Elle dit que Kevan deikanim acha, puisqu'il y a des pauvres ici. Donc, anar me karai ou shemiyash. Elle dit comme ça. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu m'as dit peut-être les pauvres de Lyon n'ont pas fait Yehush. Seulement quoi ? On est obligé de dire que s'ils seraient au courant, ils auraient fait Yehush. Donc Yehush rétroactif. La Gemara dit non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir le contraire. Il faut dire que les pauvres de Lyon, puisqu'ils savent qu'à Paris, il y a aussi des pauvres. Donc, depuis le début, ils disent, nous, on pense même pas à Paris. D'accord ?
Les pauvres qui sont en proximité.
Exactement. Donc, qu'est-ce que dit la Gemara ? Anar kevan deikanim acha, anar mekara yuyemiyash. Puisqu'il y a des pauvres ici, ils se disent, puisqu'il y a des pauvres ici, ça veut dire, puisque les pauvres de Lyon, ils se disent, puisqu'il y a des pauvres à Paris, donc nous, on oublie ce qu'il y a à Paris. Donc, à qui ça appartient ? À qui appartenait ? Donc, en d'autres termes, à qui appartenaient ces épis-là ? À quel pauvre ? Aux pauvres de Paris, aux pauvres de Lyon, à quel pauvre ça appartient ?
Ah oui, aux pauvres qui sont plus près de ce...
Aux pauvres qui sont plus près, parce que les pauvres de Lyon, est-ce qu'ils pensent un jour récupérer cette récolte-là ? Non, pas du tout, parce qu'ils disent, les pauvres de Paris, ils vont déjà les prendre avant nous.
Donc ils ont déjà renoncé.
Donc puisqu'ils ont déjà renoncé, donc eux, leur problème est déjà réglé. Il n'y a pas besoin de Yehush. Pour qui on avait besoin de Yehush ? C'est que pour les pauvres de Paris.
De Yehush anticipé ?
Non.
Rétroactif.
C'est pour qui on a besoin de Yehush maintenant ? Yehush anticipé. C'est même plus Yehush anticipé, parce que les pauvres de Lyon,
non.
Depuis le début, on dit nous, on va pas là-bas parce que il y a déjà des pauvres qui sont du quartier, ils connaissent beaucoup mieux que nous. Donc c'est quel pauvre ? Pour quel pauvre on a un problème maintenant ? On a pas un problème pour les pauvres de la ville. Les pauvres de la ville, eux, ils sont au courant des potins. Ils sont au courant qu'il y a deux groupes qui sont passés, ils sont déjà abandonnés. Donc on n'a pas de Yehush. Donc ici, c'est pas un cas de Yehush anticipé. Encore une fois, on a cassé la preuve. Chaque fois, on essaye d'amener des preuves de cas de Yehush anticipé. Et là, la Gemara te répond.
C'est pas une question.
Elle te dit que c'est pas une preuve.
Oui, parce
Parce que c'est pas un cas de Yehush anticipé.
On essaye de valider le rabat.
On essaye de valider le concept de Yehush anticipé. C'est pas un Yehush anticipé. Les pauvres de Lyon, depuis le début, ils ont déjà fait Yehush. C'est pas anticipé. Ils ont déjà oublié. C'est pas rétroactif. Ils disent, nous, on pense pas ce qu'il y a à Paris. Les pauvres de Paris, ils sont déjà au courant des potins. Ils sont déjà au courant qu'il y a déjà deux groupes qui sont passés, donc ils ont déjà abandonné. Donc il y a personne qui a fait Yehush anticipé. C'est du Yehush actif. Il n'y a pas de Yehush rétroactif ici. Donc pas de preuve. D'accord ? Amré anim data melatele. Tashma, viens, écoute. Ah, maintenant, pour une fois, après qu'on a eu 6 preuves pour Rava, qui pense que le... Enfin, 6 preuves qu'on a cassées, qui pense que le Yehush rétroactif existe, maintenant, on va amener une preuve de l'autre côté. On va amener une preuve pour Abaye.
On était à 4, celle-là c'est la 5e ?
Non, on était à 5, celle-là c'est la 6e.
Ah, la 5e, c'est celle qui revient à la première.
Oui, voilà. Donc, maintenant, pour une fois, on va amener une preuve qui va aller pour Abaye. Qu'est-ce qu'a dit Abaye ? Abaye a dit que Yehouch rétroactif n'existe pas. Ça n'existe pas. Et tant que tu ne sais pas que la personne a fait Yehouch, ça ne marche pas. Alors, on va amener une Mishnah qui est écrite dans le traité de Maasrot. Et que cette Mishnah, a priori, pourrait s'expliquer que selon la manière de voir les choses d'Abaye. Selon Rava, la Mishnah ne s'expliquerait pas. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah ? Tashma, viens, écoute. Une Mishnah dans le traité Maasrot. La Mishnah a dit, Tziot, si une personne a trouvé des figues sèches, d'accord ? Si une personne a trouvé des figues sèches, bah derrière dans le chemin. Alors, c'est quoi le concept des figues sèches ? D'accord ? Ils avaient une technique à l'époque, je sais pas comment on fait ça aujourd'hui. Ils coupaient les figues avec un couteau particulier qui s'appelait le magtsua. D'accord ? Et on le coupait avec un couteau particulier de manière à ce que le jus qu'il y a dans la figue, le jus qui est dans la figue va couler. Mais la figue va rester intacte. Vous avez une manière avec un couteau de couper la figue, de manière à ce qu'après, quand on la retournait, tout le jus tombe.
Et le jus, il va où ?
Par terre, on ne veut pas le jus. On n'est pas intéressé. Après, on la pose. Et qu'est-ce qu'on fait avec ? Peut-être qu'on la fait sécher. Non, peut-être qu'on prenait le jus, on faisait autre chose avec, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là, c'est pour la faire sécher. Très bien. Donc, où on les met pour sécher ? On les étalait dans le champ. On les étalait dans le champ pour sécher. Pour sécher avec le soleil. Très bien. Alors la Mishnah a dit comme ça dans le traité Maasrot. Tziot baderer. Si une personne a trouvé des figues sèches, baderer dans le chemin. Va filou betsat dektiot. Même si il les a trouvées, ces figues, betsat au côté des dektiot, un champ de figues sèches. Il y avait des champs comme ça que, par exemple des champs qu'on avait fait la récolte au printemps, donc en été, il fallait bien faire quelque chose avec ce champ. Qu'est-ce qu'on fait avec ce champ ? On l'utilisait pour étaler des figues sèches. Comme ça, on était productif toute l'année. Très bien. Donc, même s'il les a trouvés aux côtés, pas dans le champ, il les a trouvés aux côtés d'un champ de figues sèches. Vechen teena anota la derrière. Donc ça veut dire quoi s'il a trouvé aux côtés ? Ça veut dire c'est sûr que la figue elle vient de ce champ. Mais je ne l'ai pas trouvée dans le champ. Mais c'est sûr qu'elle vient de ce champ, c'est clair. J'ai un champ de figues qui sont en train de sécher, et à côté, dans le chemin, dans la route, dans la nationale à côté, je trouve des figues sèches. C'est sûr qu'elles viennent de là-bas. Et d'où tu veux qu'elles viennent. D'accord ? Vechen teena anutela derer. Un autre exemple que la Mishnah donne là-bas. Ainsi, s'il y a un figuier, anutela derer, qui penche vers le chemin. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a un figuier qui a des branches très très larges, et que les branches, il se trouve que les branches, elles quittent le champ et elles vont vers le chemin. Elles vont sur la nationale. D'accord ? Et, qu'est-ce qui se passe ? D'une des branches est tombée une figue. Où elle est tombée ? Elle est tombée par terre. Très bien. Ou Matsa, Tehemim Tartea. On a trouvé des figues en dessous. Donc a priori, au milieu de la route. Tout ça, c'est dans la route. C'est une Mishnah dans le traité Maasrot. Qu'est-ce que dit la Mishnah ? Mutarot, Mishum Gezel. On a le droit de les prendre et on n'a aucun problème de Gezel de vol. Pourquoi ? Puisqu'on te dit plus que ce n'est pas dans le champ, c'est en dehors du champ, c'est dans le chemin. D'accord ? Donc certainement que le propriétaire a déjà abandonné. Vous me suivez ?
Je trouve. Est-ce qu'il sait seulement ? Ah, il a déjà mis ça dans ses pertes. Il dit alors, attendez. Il y en a un qui va tomber.
Donc, certainement que le propriétaire a déjà... Qu'est-ce qu'il a dit ? Moutarot, Mishum, Gezel. Pourquoi ? Parce qu'on dit que certainement que le propriétaire a déjà abandonné. Donc je répète, le cas est très simple en vérité. Je trouve des figues sèches à proximité d'un champ de figues sèches, ou bien je trouve une figue en dessous d'un figuier. Mais pas dans le champ. La branche penchée vers dehors, et dehors, il y a une figue qui tombe par terre.
Et le premier cas, quand il fait sécher ses figues,
oui.
C'est un travail qu'il fait, il n'y a aucun rapport avec l'abandon.
Très bien.
Dans le deuxième cas, que ses branches
oui, mais sont dépassées, attendez.
Il peut se dire effectivement...
Monsieur Daniel, ouais. lui, il a fait sécher ses figues dans le champ. Maintenant, peut-être qu'il y a eu un coup de vent qui est passé, et il y a des figues qui sont parties dans la route, dans la nationale. La nationale, ça ne lui appartient pas.
Dans le premier cas ?
Oui. Le cas qu'on est en train de dire ici ?
Non, celui de l'arbre, je suis d'accord. Parce que
voilà. Même le deuxième cas, il met ses figues à sécher dans un champ. Il se dit, c'est l'été, je mets mes figues à sécher. Ouais. Il y a un coup de vent qui passe, et les figues qui étaient à proximité de la barrière, elles s'envolent, elles vont sur la route.
Ah, j'ai pas suivi ça.
D'accord ?
Je crois que c'était dans le champ qui fait sécher les...
Oui, c'est pas dans le champ, c'est dans le chemin.
Ah, c'est dans le chemin.
Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que... quelle est la halakha? La halakha, elle est que moutarot mishum gezel, ils sont moutards. Ça veut dire qu'on a le droit de les prendre mishum gezel à cause du vol. Ça veut dire qu'on ne considère pas que ce sera du vol. Pourquoi? Comme je viens d'expliquer, parce que certainement que les propriétaires l'ont déjà abandonné. Et, automatiquement, pturot mina maaser. Elles sont quittes, on n'a pas besoin de donner le maaser. Pourquoi? Parce qu'on a un principe que des fruits qui sont efker, des fruits qui ont été abandonnés par un propriétaire. Moi, je trouve des fruits qui ont été abandonnés par un propriétaire. J'ai pas le droit de, j'ai pas besoin de prélever le maaser une seconde fois. D'accord? C'est une halakha qui est comme ça.
Une seconde fois, mais comment c'est qu'elle a déjà été...
Peut-être oui, peut-être non. Peu importe. J'ai pas besoin de prélever le maaser.
Ah, tout court.
Tout court. D'accord. Très bien. Mais, écoutez bien la fin. Bezetim ou vacharouvim. Si c'était un olivier ou un caroubier, et j'ai trouvé des fruits en dessous d'un... Donc, la même chose que maintenant, mais au lieu que ce soit un figuier, c'est un olivier ou un caroubier. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit, la Mishnah a dit assour. On n'a pas le droit de les prendre. Alors, on va analyser cette Mishnah. D'accord? On va analyser cette Mishnah. A priori, la première partie de la Mishnah a l'air de conforter l'avis de Rava. Qu'est-ce qu'elle a dit le premier avis de la Mishnah? La première partie de la Mishnah, elle a dit que même si le propriétaire n'est pas encore au courant que les filles qui sont tombées sont parties de son champ, puisque
il aura fait
certainement, quand il va se rendre compte, il aurait abandonné, donc je considère qu'il l'a déjà abandonné. Ça conforte l'avis de Rava a priori.
Mais c'est faux.
D'accord? Attendez. Ça a priori, ça conforte l'avis de Rava.
Ce propriétaire, il a déjà abandonné.
Très bien.
Alors, attendez. Les filles, quand tu dis ça, il n'y a pas de problème.
Très très bien. Alors attendez, on va arriver tout de suite. Ça a priori, ça conforte l'avis de Rava. Ça conforte la vie de Rava. D'accord? Ça conforte la vie de Rava, puis il y a un yoga rétroactif. Mais la deuxième partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, quand on a parlé des olives et de l'olivier et du caroubier. Et la Gemara va expliquer tout de suite ce qu'il y a de spécial dans l'olivier et dans le caroubier. Ça, a priori, ça va dans le sens de ce que Abaye a dit. Que dans l'olivier et le caroubier, puisque le propriétaire n'est pas encore au courant, donc je ne peux pas me servir, parce que peut-être qu'il n'a pas encore fait Yéhouch.
Même si c'est dans le même public.
Il n'a pas encore fait Yéhouch. C'est ça qu'il faut bien comprendre, ce concept-là. On n'a pas, dans le monde goy, on réfléchit pas du tout comme ça. Dans la halakha, que je trouve dans le domaine public, que je trouve n'importe où, tant que je ne sais pas que le Yéhouch a déjà été fait, je peux pas me prendre. La nouveauté, la révolution de Rava, c'est que Rava a dit que si je pense que dès qu'il sera au courant, il aurait fait Yéhouch, alors il peut prendre. Donc, a priori, la deuxième partie de la Mishnah, ici, elle conforte l'avis d'Abaye. Que comme l'olivier et le figuier...
Mais pourquoi ils disent assour, comme ça?
Ah, enfin, attendez.
L'olivier et le caroubier.
Et le caroubier, oui. Alors, dans les mots de la Gemara, tout de suite,
on va
analyser. Non, attendez, on va voir comment la Gemara analyse.
Parce que la figue est sèche, donc peut-être que...
Elle est périssable.
Non, justement, on part du principe que si une olive est tombée, c'est qu'il aurait ramassé. Alors que la figue, on peut dire qu'il a laissé sécher.
Ah, on va voir. Qu'est-ce que dit la Gemara?
On va voir ce qu'il dit la Gemara.
Elle dit comme ça. Elle dit, biche, lama, recha. Ça va bien encore. Recha, la première partie de la Mishnah. Quand on dit recha dans la Gemara, recha, ça veut dire toujours le début. La première partie de la Mishnah qui a parlé de quoi? Monsieur Daniel a parlé de quoi? Des figues ou des olives?
Des figues.
Des figues. D'accord? Biche, la maraîcha, ça va bien le début. La abaye, le kashia. Je vais te dire comme ça. La première partie de la Mishnah, je peux te l'expliquer même d'après abaye. Ah? Comment tu veux m'expliquer d'après abaye? Abaye a dit que Yéhouch rétroactif, ça n'existe pas. Alors, mais pourtant, dans la première partie de la Mishnah, on a dit que les figues, tu considères que le propriétaire va certainement les abandonner. C'est du Yéhouch rétroactif, ça. Je dis non. Pour abaye, je peux t'expliquer. Que agave des chachivés, mais mashmesh baou. Que puisque les figues, c'était quelque chose d'important, je sais pas si aujourd'hui on considère les figues comme quelque chose d'important, mais à l'époque de la Gemara, les figues, c'était considéré quelque chose de très important. Ça coûtait très cher, les figues. C'est parce qu'une figue, on devait la protéger, la garder, etc. Ça coûte très cher. D'accord?
La bourra, c'est le
de la bourra, c'est le devis de figue, bien sûr.
La figue. La bourra avec le jus, alors.
Non, le figuier apparemment,
ah, dans la pomme, dans la
même dans la Mishnah,
il y avait la boucha déjà.
On explique le figuier c'était un arbre qui était très dur à entretenir. Aujourd'hui, je sais pas comment ça se passe, hein, mais apparemment, dans l'époque de la Gemara, le figuier était un arbre qui était très très dur à entretenir. Il fallait beaucoup de soin. Attendez. Donc là, écoutez bien. On te dit que ça, Abaye va se défendre. Il va dire, parce que rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit. On a dit, le début de la Mishnah conforte l'avis de Rava, la fin de la Mishnah conforte l'avis d'Abaye. Le début de la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit? On a dit que dans le figuier, on considère que certainement que la personne va faire Yéhouch. Ah! Yéhouch rétroactif? Abaye va se défendre. Non, c'est pas du Yéhouch rétroactif. C'est-à-dire, comme le figuier c'est important, c'est un arbre important, donc le propriétaire il passe très souvent pour voir. Donc puisqu'il passe très souvent, certainement qu'il est déjà passé, d'accord? Certainement qu'il est déjà passé, Et il est déjà au courant qu'il y a un peu de filles qui sont tombées, il a dit bon, c'est pas grave, je les laisse. Donc c'est plus du yéhouch rétroactif, c'est du yéhouch actif. Regardez comment Abaye il se défend. Il dit regarde-moi bien, il dit écoute-moi bien Rava. Moi, la fin de la Mishnah, elle conforte ce que j'ai dit. La fin de la Mishnah, on a parlé de l'olive et du caroubier. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il n'y a pas de yéhouch rétroactif. Tu veux me dire, ah, mais dans le début de la Mishnah, on a parlé de yéhouch rétroactif. On a dit pour le figuier. Abaye va se défendre, va dire non, c'est pas du yéhouch rétroactif ça. Parce que comme le figuier est important, donc moi je dis que la personne passe souvent pour voir. Donc certainement qu'il s'est déjà rendu compte qu'il y a un peu de figues qui sont tombées. Et elle a dit, bon allez, c'est pas grave, celui qui veut, il viendra les chercher, c'est tout. Ouais. Je vais pas me casser les pieds pour 3-4 figues. Donc c'est pas du yéhouch rétroactif, c'est du yéhouch actif.
Donc
Abaye, il s'en sort bien.
Tu peux faire un cadeau Homer.
Donc on a a priori une preuve pour Abaye. Abaye dit. On a Calva tout court. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Abaye, qu'est-ce qu'il dit? Abaye dit, regarde, la fin de la Mishnah conforte mon avis. Et même le début de la Mishnah, je l'explique aussi de manière qui conforte mon avis. Il a réussi à transformer toute la Mishnah pour le défendre. Bon, vous aurez la Khazara pour éviter tout ça. Hein. Là, je...
Non, mais si tu veux dire que déjà les olives...
Non, j'ai juste dans les mots de la Gemara. Agav, des Hachive, mais Mashmesh, Beou. Donc, puisqu'ils sont importants...
C'est très touffu, hein. C'est pour ça que c'est difficile d'entretenir. C'est très touffu. C'est un arbre, c'est un petit arbre comme
et
ça.
Oui, dans le 4e arrondissement,
c'est impossible.
Dans le 4e arrondissement, il y a une rue qui s'appelle la rue du figuier.
Il y a un figuier.
Pas loin du marais. Il y a un figuier, un seul figuier dans la rue.
Incroyable.
Tellement c'est spécial d'avoir un figuier dans Paris qu'on l'appelait rue du figuier.
Ouais, donc, vous voyez, toujours là, figuier ?
Toujours là.
C'est ce que tu dis, c'est ta Zora.
Que quoi ?
Que ça veut dire ça ? Peut-être qu'avant il y avait beaucoup de figuiers, on a fait la rue du figuier, puis il y avait
je sais pas. Bon. En tout cas, moi, là maintenant, dans la rue, il y a un figuier. Oui, toujours.
Il y a un figuier.
Toujours. Au début de la rue, t'as une maison, et devant la maison, il y a un grand figuier. Et toujours, dès que tu passes à la saison des figues, tu vois les figues, il y a des figues qui tombent par terre et tout. Et la même chose, chaque fois que j'étudie ça, je pense à cette rue-là, parce que dans cette rue-là, effectivement, les branches, elles sont tellement grandes qu'elles dépassent la barrière du propriétaire. Elles vont dans la rue. Le figuier a des branches très très larges. Il a des branches qu'il faut les couper à chaque fois parce qu'il s'étale.
Ça
part dans tous les sens. Très bien.
Ça part dans tous les sens. Ah. L'arbre, il est complètement...
Donc il dit comme ça. Il dit... Donc, ça va bien encore d'après Abaye, que Abaye est le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah le conforte. La fin de la Mishnah le conforte, pourquoi? Parce que la fin de la Mishnah l'a dit clairement. Elle a dit, tant que tu sais pas que la personne a abandonné, tu peux pas te servir. Et même le début de la Mishnah qui a dit que dans le cas des figues, monsieur Daniel, on peut se servir. Pourquoi on peut se servir dans le cas des figues? Parce que Abaye va te dire, moi je considère que comme les figues c'est important, donc certainement que le propriétaire est déjà passé. Donc, il a déjà abandonné. Donc c'est plus du yéhouch rétroactif, c'est du yéhouch actif.
On n'a pas de preuve là. Ça pensait, mais peut-être oui, peut-être non.
Peut-être non, d'accord. Mais de la fin de la Mishnah, on a une preuve.
La fin de la Mishnah, oui.
Très bien. Donc Abaye te dit, moi j'ai une preuve de la fin de la Mishnah. Ah, tu vas poser une question avec le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah, je vais t'expliquer que toi aussi, c'est pas très chaud ce que tu racontes.
D'accord.
Très bien. Donc, Tena Nami, Meidaïdia Denatra. Donc, qu'est-ce qu'il veut t'expliquer ici? Que la figue, Meidaïdia Denatra, certainement qu'il sait qu'elle est tombée. Et là, c'est Fale Rava Kashia. Seulement d'après Rava, que Rava a expliqué le concept du yéhouch rétroactif. Là, d'après Rava, on a du mal à expliquer la fin de la Mishnah. Pourquoi dans la fin de la Mishnah, tu m'as dit que des olives... Et des carreaux, que l'olivier, le caroubier, tu m'as dit que... Ah, assour. Hein, monsieur Bismuth, on a dit assour sèchement. Pourquoi assour? Pourquoi tu dis pas la même chose que certainement qu'il a déjà abandonné? Si on vient voir maintenant le propriétaire de l'olivier, on lui dit, tu sais, il y a 3 olives qui sont tombées en dessous de ton arbre. Qu'est-ce qu'il va vous dire d'après vous? Imaginez-vous, vous avez un olivier.
Il y a 50 000 olives sur ce arbre.
Et sur un olivier, vous savez combien d'olives il y a sur un olivier?
Non.
Vous savez combien de centaines d'olives?
Comme un cerisier, on peut avoir
une olive. Énorme. Sur un olivier, il y a des centaines d'olives, si ce n'est pas des milliers. Énorme. D'accord. Si maintenant, un jour, vous allez voir quelqu'un qui a un olivier, vous allez dire, tu sais quoi, il y a 4 olives qui sont tombées en dessous de ton arbre, dehors de chez toi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Qu'ils les prennent. D'accord. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit pourtant? Assour. Pourquoi assour? Pourquoi tu ne me dis pas le principe? Là, c'est Abaye, question de Rava. Il dit, pourquoi tu ne me dis pas le principe du yéhouch rétroactif? Et je trouve actif, certainement que la personne qu'on va lui raconter qu'il y a 4 olives qui sont tombées, va dire bon bah qui les prenne celui qui les trouve. Non, assaut. Pourquoi assaut? Ah, de là j'ai une preuve que yéhouch rétroactif, ça marche pas. Sinon j'ai pas de raison pourquoi c'est assaut.
Ouais, attends, c'est une preuve, mais pourquoi assaut alors?
Ah ah.
avant de dire
donc,
que c'est une preuve.
La seule manière de Rava de se défendre, ça va être de dire non, c'est assourd pour une autre raison.
Ah bah oui. De laquelle?
D'accord? Parce que pour l'instant, Abaye dit, moi je te dis pourquoi c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que Yahouj Proxy, ça marche pas. C'est pour ça que c'est assourd.
D'accord? Il fait de la réponse, il fait de la question, la réponse, c'est trop facile.
On n'oubliez pas, c'est pas Abaye qui parle, hein, c'est la Gemara
qui
dit.
Oui, d'accord.
Bon. Oui, parce qu'on oublie ce qu'ils ont dit vraiment.
Qu'est-ce que dit la Gemara? Hein, on va se mettre à parler des olives, des figues, etc. Bon. Alors, la Gemara elle dit. Amar Rabbi Abaou, Rabbi Abaou a répondu, il a dit non. J'ai une réponse très simple. Il dit pas du tout, t'as mal compris. Toi, Abaye, donc là c'est Rabbi Abaou qui défend Rava. Il dit, toi, Abaye, tu as compris que pourquoi c'est assourd dans le cas de le livre? Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi c'est assourd dans le cas de le livre? Tu m'as dit, c'est assourd parce que. Pourquoi c'est assourd? Parce qu'il n'y a pas d'éouge rétroactif. Et que le propriétaire, peut-être qu'il n'est pas encore au courant qu'il n'a pas d'éouge.
Non, parce que les figues ont de la valeur.
Non. Non, ça c'est pour les figues, mais pour les olives et les carreaux. Tu m'as dit que pourquoi on considère que c'est assourd? Parce que il n'y a pas d'éouge rétroactif. Je te dis non, Rava dit non, je te dis non, c'est pourquoi ça, c'est pas pour ça que c'est assourd. Il y a d'éouge rétroactif, et tu as raison. Normalement, l'olive et le caroubier, ça aurait dû être permis, comme la figue. Ah, pourquoi ça interdit l'olive et le caroubier?
Mais la figue, on a dit pourquoi
c'était moutard. C'est comme ça important. Donc certainement que le propriétaire s'est déjà rendu compte. Donc c'est un yaouche actif, il est déjà au courant.
D'accord.
Ça c'est comme ça qu'Abaye a voulu dire. Elle dit comme
donc,
ça.
Il y a yaouche, mais pas rétroactif.
Pas rétroactif, actif.
On essaye de valider Rabat.
Mais d'accord. Alors maintenant, alors que dans la fin de la Mishnah, on peut pas dire ça. L'olive, c'est pas important. Comme on a dit, il y a des milliers d'olives sur un arbre. Enfin, moi j'ai déjà vu des centaines, milliers, je ne savais pas. Et c'est énorme, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu un olivier. C'est énorme le nombre d'olives qu'il y a. Et d'ailleurs, il y a toujours un olivier, j'ai jamais vu un olivier sans des olives par terre. Oui. Toujours plein d'olives par terre. Il y a tellement d'olives que. Et le propriétaire n'en a rien à faire. C'est... D'accord. Il ne veut pas se rendre la tête. Bon.
De toute façon, ça ne change pas. Mais les olives, même qu'on baisse dans la valeur, attends,
oui.
On va avoir un problème là.
Qu'est-ce qui se passe?
Les femmes, c'est ce qu'elles veulent. Ce qu'elles voudraient, c'est qu'on soit des oliviers.
Pourquoi?
Beaucoup, beaucoup, puis on laisse traîner par terre quand ça y est.
C'est la largesse.
C'est ça que vous voulez.
Donc, ma Rabbi Abaou, Rabbi Abaou a dit, il dit non, je vais t'expliquer en vérité. Et pourquoi Rava a dit, je vais t'expliquer, je défends la vie de Rava. Pourquoi les olives et les caroubiers c'était interdit? Pas parce que Yahouj 3-6 ça marche pas. Yahouj 3-6 ça marche. Et normalement, puisque la personne aurait abandonné, ça aurait dû être permis. Ah, pourquoi c'est interdit? Il dit non. Chan, Isaïd, c'est différent, l'olive. Pourquoi? Que les propriétaires ne l'abandonnent pas, pourquoi? Oil vechazuto mochiar alav. Ah, écoutez bien. Puisque le look de l'olive, mochiar alav, il prouve sur lui. Ça veut dire quoi? Alors ça, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde qui avait des oliviers. Et l'olive, quand on voit l'olive, on peut reconnaître l'arbre duquel elle est tombée. Quand on voyait une olive, la forme de l'olive, on pouvait remarquer de quel arbre elle est venue. C'est parce qu'il y a des formes. Il y a des olives plus longues, plus courtes, plus grosses, etc. D'accord?
Très bien. Ça ne change pas le problème.
Bien sûr, attendez.
Il n'y a pas de rapport.
Là.
Il y a
voilà. Écoutez bien. Il dit c'est différent l'olive. On n'a pas encore parlé du caroubier. C'est différent l'olive. Pourquoi c'est différent l'olive? Parce que oil verazuto mochiar alav. Puisque son look mochiar alav, il prouve sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit l'olive, on peut reconnaître son propriétaire. On peut reconnaître l'arbre du olivier. Et alors? Ah, flagave de natrine zété, même si les olives sont tombées. Meïda y dit, on peut reconnaître qu'elles viennent de cet arbre-là. Pourquoi? Parce que d'ours t'as des iniches. Inish où? Qu'est-ce que dit la Mishnah? Qu'est-ce que la Gemara, pardon? Elle dit, l'endroit d'un homme, c'est un homme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on reconnaît que les olives, c'est les olives d'un tel. On reconnaît que c'est, que c'est l'arbre d'un tel. Et alors qu'est-ce qu'elle veut expliquer la Gemara avec ça? La Gemara veut expliquer avec ça que les propriétaires, ils vont pas abandonner ces olives. Parce qu'ils vont dire, de toutes les façons, même s'il y a des olives qui vont tomber, de toutes les façons, personne ne va toucher, parce qu'on sait que ces olives viennent de mon arbre. Donc personne ne va toucher. Et moi, je viendrai après, je vais les prendre. Donc ça, c'est ce qu'on a de spécial. Ça, c'est ce qu'on a de spécial dans les olives. Alors, la Gemara ne parle pas, a priori, d'accord, la Gemara ne parle pas du concept du caroubier, d'accord, mais il faut expliquer a priori que le caroubier c'est la même chose. Quand on voit un caroube, vous avez déjà mangé du caroube? Bon. Quand on voit un caroubier. Oui, j'ai déjà mangé. Tout bishvat. Quand on voit un caroubier, un morceau de caroube, on peut voir de quel caroubier il vient. Donc le propriétaire n'abandonne pas. Bon. Donc a priori, d'accord.
C'est pas une réponse. Parce que on dit il abandonne parce que, comme c'est infime par rapport à sa production, donc c'est pour ça qu'il abandonne. C'est pas parce que ça lui appartient qu'il abandonne.
Ça c'est ce que vous, ça c'est la manière de voir la chose d'Abaye. Mais Rava il se défend. Rava il dit non, il dit réfléchis autrement. Il dit avec le temps, il y a beaucoup d'olives qui vont tomber. Oui. Et le propriétaire, quand il voit les olives tomber, il dit de toutes les façons, ces olives, ils sont grosses comme ça, on reconnaît, c'est mes olives. Donc personne ne va toucher. Moi, je vais pas aller les ramasser tous les jours. Je vais aller les ramasser une fois par deux semaines. Je vais attendre qu'il y a 100 olives par terre, je vais les ramasser. De toute façon, personne ne va les toucher, on reconnaît, c'est mes olives.
Il y a un coup de vent qui vient, qui te les fait tous par terre, il n'y a plus rien le type.
D'accord. C'est un risque à prendre. Mais lui, il dit dans sa tête, il dit non, personne ne va toucher mes olives. C'est mes olives, elles sont grosses comme ça, personne qui va toucher mes olives. Personne ne va toucher mes olives. Même aujourd'hui, on voit que dans les olives, il y a plusieurs types de.
Mais attends, de là être reconnaissable,
c'est que sur
le voisin d'à côté, il a les mêmes oliviers, on ne va pas reconnaître si c'est celui-là ou.
Bon, alors voilà, ça, c'est ce qu'on nous dit l'Agmara. L'Agmara, elle nous dit que pourquoi on a pris l'exemple de l'olive, pourquoi on n'a pas pris les d'autres exemples, parce que l'olive a cette particularité. Dans l'olive, quand on voit l'olive, on reconnaît l'arbre duquel elle est venue.
C'est
l'Agmara qui le dit.
Ouais. Non, mais attends, d'accord, là, on a résolu le problème à l'exemple du caroubier,
et de l'olivier.
Et de la figue.
Oui.
Mais le reste, il n'y a pas que ça.
Tu as raison. Donc le reste, ou il rentre dans la catégorie figue, ou il rentre dans la catégorie olivier.
Oui.
D'accord ?
Dans la catégorie figue, il n'y en a pas beaucoup qui vont rentrer dans la catégorie figue.
Parce que c'est pas important. D'accord ? Donc si c'est des fruits qui sont pas importants...
Et si au contraire, c'est des fruits importants.
C'est un fruit important,
la figue. Oui, la figue, c'est un fruit important. Donc si c'est des fruits qui sont pas importants, d'accord ? Là, dans ce cas-là, si ça rentre ni dans la catégorie de l'olivier, ni dans la catégorie de la figue, c'est-à-dire ni c'est important, et ni ça a une forme particulière, là, c'est sûr que la personne a déjà abandonné. Dès le départ.
Obligé.
Dès le départ, parce que c'est obligé. La personne sait qu'elle a une terre. Comme il a dit M. Bismuth, quand on lance une affaire, c'est Bismuth.
On sait qu'il y a une paire.
Quand on ouvre un magasin, on sait qu'il y aura des paires, tu veux, non ? On est d'accord ?
On espère bon. Pas, mais on est assez.
On sait qu'il y aura des pertes. Mais si on vous dit maintenant que vous vendez des produits très chers, là, tu dis non, il n'y aura pas de pertes. Je vais le retrouver, mes produits. C'est que je fais attention. Je vais installer des caméras.
Et si... Et
voilà.
Il y aura des pertes.
D'accord. Et pareil aussi. Quelqu'un qui a des produits, c'est que lui qui vend. Il n'y a que lui qui vend ce produit. Un truc, c'est lui qui le fait. Là, il se dit, attends, on ne va pas le voler comme ça, parce qu'on reconnaît, c'est mon produit, ça. On va pas,
Sauf si c'est un consommateur.
Sauf si c'est un consommateur,
voilà. Mais attends. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé du blé, c'était un cas particulier, parce qu'il y avait une Mishnah, il y avait dans la Torah.
Les quêtes. C'est pas que le blé. Yaakov, excuse-moi, c'est pas que le blé, c'est tout ce qui est dans le champ.
Tout ce qui est dans le champ.
Pas que le blé.
Les pommes de terre,
alors, tout alors.
Tout ce qui peut pousser par terre.
Si j'ai un objet qui est manufacturé, un objet qui est chez Bismuth, il n'y a pas de signe particulier.
Ah, là, on parle du champ, on parle de l'agriculture, là.
D'accord.
Mais
qu'est-ce qu'il fait ?
Qu'est-ce qu'il fait que c'est ça ce que le Rachamim ont estimé.
On t'a pas demandé de
faire ça. Tu dois faire Hazara ce qu'on a étudié la semaine dernière.
Est-ce qu'il va le ramasser, il va le voler, ou est-ce qu'il va le
C'est une bonne question ce que tu poses, mais on l'a étudié la semaine dernière. Alors, je conclue. Quelle heure il est ? Ah, on a encore le
sujet.
Alors, on dit comme ça. Dit que, la Gemara a dit, Iyahi, si c'est comme ça, si tu me donnes le concept, je termine le cas. Si tu me donnes ton concept que le look du fruit va me prouver de quel arbre il est tombé, alors dans ce cas-là, à filou recha, même le début de la Mishnah. Pourquoi ? Parce que là, qu'est-ce que quelqu'un a posé la question ? Il dit la figue aussi. La figue aussi, en voyant la figue, on peut remarquer de quel arbre elle est tombée. Encore une fois, nous on ne comprend pas tellement ce genre de choses, parce que nous, on n'a pas des arbres dans nos maisons. Donc mais à l'époque, d'accord, comme les gens avaient des arbres, donc ils étaient connaisseurs. Donc dès qu'on voyait une figue, on voyait la forme de la figue, le look de la figue, tout de suite on voit de quel arbre elle est tombée.
Le raisin en France, ils peuvent te dire, ils devraient une grappe, ils te disent
tout
ça,
de suite, c'est des connaisseurs.
Le haut coteau, du bordelais, du machin, du truc.
Nous, ça nous paraît bizarre parce qu'on n'est pas dedans, d'accord, on n'est pas dans l'agriculture. Mais à l'époque, ils avaient tous des arbres dans leur maison, d'accord, pas dans leur maison, dans leur cour, donc c'est du standard. Donc la Gemara pose la question, elle dit, mais la figue aussi ? La figue aussi, c'est la même chose.
Non, on fait pas du...
D'accord ? Que même si... Non, que c'est la même chose. Même si le propriétaire est passé et que quelqu'un m'a dit tout à l'heure la figue est importante, même si le propriétaire est passé, il va dire de toutes les façons, personne ne va toucher à mes figues. Pourquoi ? Parce qu'on me reconnaît. On tourne un petit peu là, vous suivez ? Vous aurez la chazara. C'est ce cours, ça tourne un peu. Alors, Amar Rafapa a dit, c'est Ena imne filatanim eset.
Pas trop loin.
Qu'est-ce qu'a dit la Gemara ? La Gemara a dit, non après ça simplifie. C'est que
non,
ce...
non, pas trop loin, parce que déjà là, c'est bien, et après, tu, dès que tu vas commencer à aller plus loin, on va oublier de...
Attends,
on comment ça marchait,
parce que
là j'ai su comment
ça
marche.
C'est que ça y est, non, ça ce qu'il y a bien dans la Gemara et l'Umetziot, c'est que voilà, là on va conclure ce cas tout de suite. On va passer à un autre cas. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Rafapa répond. La figue, quand elle tombe par terre, elle devient sale. Ça veut dire quoi, elle devient sale? Donc en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire l'abandonne. Non, c'est-à-dire, tu peux la manger, mais il faut enlever la peau, c'est une galère. D'accord? Donc le propriétaire l'abandonne. Donc en d'autres termes. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire à papa? Il veut te dire, c'est vrai, tu as raison, que normalement, si la figue elle est tombée par terre, le propriétaire, quand il est passé, il est sorti de chez lui à la maison rue du figuier, il a vu la figue par terre, il a dit ça, attends, j'attends la fin de la semaine, je vais les ramasser, et de toutes les façons, on reconnaît que c'est mes figues. Oui, c'est, oui, c'est bien beau ce que tu dis, mais la figue, quand elle est tombée par terre, elle est sale. Donc le propriétaire, elle dit, elle est sale,
c'est une perte. Donc tu l'as fait un
non.
Actif.
C'est pas sale, nîmes et sale, ça veut dire qu'elle est dégoûtante, il faut carrément enlever tout, ça se lave plus, il faut enlever la peau. C'est fini.
Voilà.
D'accord. Donc, et c'est pour ça que la figue, on la laisse pas tomber par terre, on l'attrape, on l'accueille, etc. Donc c'est plus un yéhouj rétroactif, c'est un yéhouj actif.
Donc ça commence à bailler.
Mais conclure le cas ici, ça conforte ni à bailler, ni Rava.
Voilà, les deux, vous pouvez aller faire ensemble Hazara.
Les deux,
que...
ça par contre ça Hazara.
On va vous mettre d'accord.
Il y a ni à bailler, ni, ça conforte ni à bailler, ni Rava. Pourquoi? Parce que Abaye a trouvé sa manière d'expliquer, et Rava a trouvé sa manière d'expliquer.
Ah oui, d'accord.
Abaye a trouvé sa manière d'expliquer comment toute la Mishnah parlait d'un cas de yéhouj actif, donc pas rétroactif. Et enfin non, Abaye a trouvé une manière de dire pardon que la fin de la Mishnah parlait d'un cas de yéhouj rétroactif et c'est pour ça que c'était assourd, alors que le début de la Mishnah parlait d'un yéhouj actif, donc il voulait conforter son avis et Rava lui va lui montrer que non, Rava lui dit pas du tout, il lui dit partout c'est un yéhouj rétroactif et ça marche. Ah pourquoi à la fin ça marchait pas dans les olives? Ah, j'ai une autre raison.
C'est un autre cas,
c'est pour une autre raison, c'est parce qu'il y a la forme de l'olive, c'est tout, et qu'il y a un siman, voilà, c'est un peu comme un siman. Donc, ni preuve pour Abaye, ni preuve pour Rava. Faites rattacher, vous aurez la chazara. On passe directement au cas suivant. Enfin, là, on va amener une preuve à Rava. Plus à Abaye, on va amener une preuve à Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava, Dov? Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Yé ou je crois que ça marche ou ça marche pas?
Oui.
Ça marche. Alors, on va amener une preuve pour ce que Rava a dit.
Oui.
Tashma, bien écoute. Aganav, le voleur. Chez Natal, misé. Venatan, lasé. Un voleur qui a pris un objet de chez moi et qui l'a donné à quelqu'un d'autre. Un voleur qui vient chez moi à la maison. D'accord.
C'est ce que j'avais dit, c'est un robin.
Voilà.
Il y a un bienfaiteur quand même, malgré tout.
D'accord. Donc, chez Natal misé, Natal lasé. Il s'est dit, bon, tiens, je dois donner un cadeau, il y a un mariage bientôt, là. D'accord. Il va chez quelqu'un, il se sert, il prend un beau bijou et il arrive à un mariage, il va la tenir, beau bijou. Natal misé, Natal lasé. Il a pris d'un tel et il l'a donné à l'autre. Vechen Gazlan, ainsi qu'un Gazlan, chez Natal Mizé et Natal Lazé. Quelle est la différence entre le Ganav et le Gazlan? Ganav, Gazlan.
Gazlan, c'est le Gezel.
Alors, c'est quoi la différence entre Gneva et Gzela, monsieur Bismuth?
L'un en se cachant et l'autre...
Voilà. Ganav, c'est quand on le fait en cachette. Quand?
Cambrioleur.
Et voilà, cambrioleur. Et Gzela, c'est celui qui vous attaque en pleine rue. Hold up. Madame, votre sac, s'il vous plaît.
Enfin, voilà,
s'il vous
plaît.
Même si ça vous plaît pas.
Ah, c'est ma femme, elle est toute sa vie.
C'est un voleur, l'autre un cambrioleur.
Donc, Ganav et Gazlan. Pareil. Vren Gazlan. Pareil aussi un Gazlan. Chez Natal, misé. Venatan, lasé. D'accord. Alors, écoutez bien cette différence entre le Ganav et le Gazlan, puisque avec ça, on va former la question après qu'on travaille. On veut approuver, on veut conforter la vie de Rava. Donc, également un Gazlan qui a pris d'un tel et qui l'a donné à un autre. Bon. Vren, pareil. Yarden. Ah. On va parler un peu de géopolitique, là. Vechen Farel, Yarden, Shirala al-Gedotav. Donc Yarden, c'est le nom d'un fleuve en Eretz Israël. Vous connaissez tous. D'accord? Le Jourdain. Chez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Jourdain? Bon, alors, effectivement, les commentaires expliquent, Rashi explique que c'est pas simplement le Jourdain, ça aurait pu être n'importe quel fleuve. Seulement, on a donné l'exemple qu'on connaissait. Ils habitaient à côté du Jourdain, donc ils ont donné l'exemple du Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Jourdain? Le Jourdain, l'eau du Jourdain est montée. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Et alors? Venatal misé, Venatan lasé. Ah, là le voleur n'est plus une personne, mais le voleur est le Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, vous suivez? Le Jourdain est monté, d'accord? Il est monté, il est parti sur une rive, il a emporté des choses, et ensuite il est redescendu, chut,
ah, le petit gars,
et il a ramené un objet, c'est quelqu'un d'autre.
Ah oui?
Eh oui.
Oui.
Là, c'est plus un voleur. Là, c'est le voleur, c'est le Jourdain ici. Yarden.
Ils vont faire quelque chose dans la mer et les vagues ils sont amenées. Sure. Il est de l'autre côté.
Et mais moi, le Jourdain, je ne l'ai pas demandé de monter. Il est monté comme ça, il y a eu pas. Il est monté tout d'un coup très très fort. Il a vidé ma maison et chut, tout d'un coup, et mon voisin il se retrouve avec des bijoux et des trucs. D'où ça vient? C'est le monsieur Jourdain qui te les a amenés. Vechen Yarden. C'est un nom de famille, Jourdain, non? Il y a des gens qui s'appellent Jourdain.
Ouais. Je crois que c'était un siman des... Parce que c'était Molière qui avait piqué les fables à la fontaine. Il faut savoir que les trois quarts du bal de Molière... Je vous dis en aparté comme ça.
Oui,
c'est la fontaine qui les avait...
Non, j'ai très bien.
Et la fontaine, c'est Ésope. Et Ésope, bon. Ésope, c'était l'esclave de Gamaliel. Et il avait sorti un personnage
moi, je sais qu'on, Monsieur Yarden. Moi, je sais qu'on connaissait un... Il y a un imprimeur avec qui on a travaillé qui s'appelait Monsieur Jourdain. Ren Yarden, pareil donc le Jourdain, chez Natal Misé, Venatan Lazé, qui a pris d'un tel, qui a pris de un, et qui l'a donné à l'autre. Alors, quelle est la halakha? Écoutez bien la halakha. Ma chez Natal, qu'est-ce que dit la Gemara? Dit, ma chez Natal, Natal, ce qu'il a pris, il a pris. Alors, qui a pris? Le voleur, le cambrioleur, ou bien le fleuve? Le Jourdain. Ce qu'il a pris, il a pris... Ou Maché Nathan, Nathan. Et ce qu'il a donné, a donné. Ça veut dire quoi hein?
Excuse-moi, mais il y a du recel.
Ah, il y a un problème.
Ouais, pour le Jourdain, je suis d'accord. Mais pour le voleur, c'est
alors, écoutez bien. Maché Nathan, Nathan. Ce qu'il a pris, il a pris. Ou Maché Nathan, Nathan. Et ce qu'il a donné, il a donné. Ça veut dire quoi hein? Ça veut dire que moi qui a reçu l'objet de sa main, je ne suis pas forcément au courant. Je ne savais pas que c'est un voleur. Maintenant, moi, l'objet, il est chez moi. Quelqu'un, il est venu, il m'a offert, à mon mariage, il m'a offert un cadeau. Maintenant, moi, je ne suis pas au courant que ce cadeau-là, en vérité, il est parti à la FNAC, il a volé. Ah, je ne suis pas au courant. D'accord? Alors, on dit, lui, ce qu'il a pris, il a pris. C'est son problème avec Dieu, avec le propriétaire. Toi, Maché Nathan, Nathan, ce qu'il t'a donné, tu l'as donné. Pourquoi? Écoutez bien, regardez comment ça va conforter la vie de Rava. Hein? Pourquoi? Parce que on considère que certainement que le propriétaire a déjà abandonné. Ah, ça veut dire quoi? Quand on va prendre l'exemple du Jourdain. Quand le Jourdain est passé chez moi, il a pris des objets. Ah, mes objets, je les ai déjà abandonnés, jamais je vais les retrouver. Quand le voleur est passé chez moi, ou quand le cambrioleur m'a pris mon portefeuille, ah, j'ai déjà abandonné. Le voleur est passé, il a arraché le collier à une femme, la personne a déjà abandonné.
Non, tu
donc,
la police, tu l'as pas abandonné.
Très bien, mais tu as déjà abandonné de retrouver. Tu vas jamais retrouver ton collier.
On est
rentré
chez vous.
Vous
avez été rentré chez vous. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà...
J'ai été cambriolé.
Oui.
Vous avez retrouvé ces choses?
T'as déjà retrouvé?
J'ai fait la police.
Et c'est l'assurance t'a remboursé, bon.
L'assurance
d'accord.
Très bien. Mais t'as déjà retrouvé l'objet?
Des fois, tu retrouves.
Jamais.
Non, moi, personnellement, bon, moi non plus. J'ai été plié 20 fois.
Mais il y a des gens pour les objets.
Moi, j'ai dû racheter. J'ai racheté un ordinateur.
Ça vaut le truc des machins.
Bon, alors là, c'est autre chose. Un Siman, etc.
Oui.
Très bien. On parle d'un cas standard.
Ah, sans Siman, évidemment.
Ah, d'accord. Je sais pas, une femme qui se fait arracher son collier dans la rue, elle oublie.
J'ai mis une affiche autour du magasin. Parce que dans la valise où il y avait mon ordinateur, il y avait un cahier qui valait 100 fois le prix. C'était toutes les factures que je devais éditer à mes clients de l'époque. J'ai mis des affiches sur le magasin. Une valise a été perdue et elle contenait un machin très forte récompense à celui qui le ramène. Le mort d'idée, il est venu. Je l'ai acheté, c'est peut-être celui-là, ça correspond, vous avez écrit Samsung, machin. Je lui ai donné 400 euros pour... Non, même pas. 400 euros pour racheter mon propre ordinateur que je sais que c'est lui qui l'avait. C'est lui qui l'a volé.
Mais, il y avait les documents dedans?
Oui, j'ai retrouvé mon cahier et j'ai pu facturer. Moi, j'avais 15 000 euros de facture à faire pour un ordinateur de 400 euros, j'ai rien payé.
Bon. Alors, biche, lama, ça va bien. Donc, on prend le cas du voleur. Biche, lama, ça va bien encore dans le cas du gazlan Veyarden. Écoutez bien la question. Et là, j'attendais que vous posiez la question. Ça va bien encore dans le cas du voleur. Comment on appelle celui qui vole dans la rue, là, celui qui arrache. Voleur à main...
arraché.
Voleur à l'arraché. Et le Jourdain, hein, que là, à ce moment-là, des kachazeléou. Moi, j'ai vu le voleur. J'ai vu, il me l'a arraché. Il me l'a pris à l'arraché.
Conscient du vol.
Donc, je suis conscient du vol. Donc là, effectivement, je peux comprendre que Meyesh, que tu l'as abandonné. Donc là, est-ce que c'est un yéhouj rétroactif ou actif?
Il est direct, à l'instant
il est actif, à l'instant même. Tu l'as déjà abandonné. On est d'accord? Vous me suivez? Le Jourdain qui passe chez vous, vous avez un dégât des eaux. D'accord? Le dégât des eaux, pchut, il prend des affaires et les affaires, elles arrivent chez votre voisin.
Tu vas attendre que ton ami revienne pour
te rapporter. C'est fini, tu l'as oublié ton objet. Tu vas passer ça à l'assurance, mais ton objet, tu l'as oublié. La même chose, un cambrioleur, il arrache quelque chose dans la, il vous arrache quelque chose. Vous vous rendez compte parce qu'il vous l'a arraché. vous l'avez abandonné. Donc là, dans ce cas-là, le Yéhouch n'est pas rétroactif. Le Yéhouch est actif. Très bien. Là, je comprends ce que tu dis. Mais, vous me suivez ?
Oui, bien sûr, mais bon, on a du mal à l'idée que
quoi ?
C'est un Yéhouch et qu'ensuite la personne...
Non, attention. Là, on essaye de... J'explique. Tu fais un mariage. D'accord ? Tu fais un mariage. Je vais te donner un exemple. D'accord ? Tu fais un mariage. Il y a quelqu'un qui va venir au mariage et qui va te donner un cadeau de 150 euros. Qui te dit que cet argent n'est pas volé ?
C'est vrai, je me suis souvent posé la question.
Pas de savoir.
Hein ? Qui te dit que cet argent n'est pas volé ? C'est qui a volé l'argent ? L'argent volé, on n'a pas le droit de s'en servir. Tu comprends ma question ? Qui te dit que l'argent n'est pas volé, qu'il est volé cet argent ?
En France, on appelle ça un receleur.
Alors, de bonne foi. Bien entendu, bien sûr que si je sais que la personne est un voleur, j'ai pas le droit de prendre ton argent. Je dis, monsieur, tu gardes ton argent. Ça, c'est sûr. Mais moi, je sais pas si c'est un voleur ou pas. Alors, si tu veux, par rapport à Dieu, quel statut va avoir celui qui va mettre les bijoux d'une personne et voler ? Ça, on te dit non. Ma chez Natal. Ce qu'il a pris, il a pris. Ça veut dire que c'était à lui de s'arranger avec Dieu, avec le propriétaire. Mais ce qu'il a donné, c'est donné. Alors, la Gemara a dit, regarde bien, on a donné trois exemples ici. Voleur, cambrioleur et Jourdain. Alors, sur le voleur, quand je dis voleur, ça veut dire à l'arraché. Et sur le Jourdain, je comprends. Parce que le propriétaire s'est rendu compte déjà. Donc, c'est plus un Yéhouch rétroactif, c'est un Yéhouch actif. Mais... Quoi ? Encore une fois, bien sûr, si c'est un objet de valeur, si c'est un tableau de Picasso, bien sûr qu'on va pouvoir le retrouver. D'accord ?
Non, mais si c'est les bijoux de ma femme et que je vois le Jourdain et je vois qu'il arrive et puis qu'il va chez le voisin, je vais chez le voisin, je vais dire, attends, il y a des bijoux là...
Tu vois rien du tout, tu te sauves quand tu vois le Jourdain qui passe, dis-moi, tu... Alors...
C'est similaire aux figues de tout à l'heure, aux olives...
Bon, alors on dit comme ça. Donc qu'est-ce qu'elle dit ? Mais Ganav, le vol, donc je comprends pour le cambrioleur, et le Jourdain. Mais Ganav, le voleur,
pour le voleur,
et le Jourdain. Mais pour le cambrioleur, celui qui vient chez toi à la maison en cachette. Mika Razele de Miyesh. Est-ce que tu es sûr que le propriétaire est déjà au courant qu'il a été volé ? Par nature, un cambrioleur, il ne veut pas se faire voir. Il ne veut pas qu'on le voit. D'accord ? Il ne veut pas qu'on le voit. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dès qu'on le voit, il risque de tuer. Il risque de tuer la personne parce qu'il veut pas qu'on le voit, il veut pas qu'on sache qu'il l'a volé. Le cambrioleur, il est content s'il est rentré dans la maison et qu'il n'y avait personne. C'est ça ce qu'il cherche, un cambrioleur. Il veut qu'il n'y ait personne. Il veut pas qu'on sache qu'il l'a fait. Alors, qui te pousse ? Donc, si c'est un cambrioleur pro, qui te dit que le propriétaire est déjà au courant qu'il s'est fait voler ses bijoux ? Peut-être c'est que dans un mois, quand sa femme elle voudra aller à un mariage, elle dira « Ah, je ne retrouve plus les bijoux !» Et là, on va dire « La femme de ménage, on va dire qui vous voulez. » Hein ? Alors ? Mikachazele de Miyahesh. Est-ce que tu l'as déjà vu ? Est-ce que la personne a vu qu'il s'est fait voler le Miyahesh pour dire qu'il a fait Yéhouch ? Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que Maché Natan, que ce qu'il a donné a été donné. Pourquoi ? C'est pas un Yéhouch actif. Peut-être que le Yéhouch n'a pas encore été fait. Donc c'est pas un Yéhouch actif. Seulement, qu'est-ce que tu te dis ?
Si, il serait actif parce qu'il serait apercevoir.
Voilà. Donc, tu te dis que certainement, quand dans un mois la personne...
C'est ça rétroactif.
Tu te dis que certainement, quand la personne va se rendre compte qu'elle a perdu son objet, il dira, bon, ben,
Capara. Ça fait 3 mois qu'ils m'ont piqué, je ne sais même pas, tu parles, d'accord. Jamais je le retrouverai.
C'est fini, jamais je le retrouverai. Très bien. Donc là, c'est rétroactif. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah ? Ça marche ou ça marche pas, Dov ?
Là, ça avait confirmé, Rava.
Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, Mash et Natal, ce qu'il a pris, il a pris. Ça veut dire qu'il devra s'arranger avec Dieu et avec le propriétaire. Ou Mash et Natal, et ce qu'il a donné est donné. Ça veut dire que celui qui va recevoir cet objet-là, eh ben, ça lui appartient. Donc, alors que c'est possible que le Yéhouch, dans le cas du cambrioleur, c'est possible que le propriétaire n'a pas encore fait Yéhouch. Ouais. Seulement, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, là, c'est Rava qui pose la question. Il dit, tu vois qu'il y a une preuve de ce que je te dis. Que puisqu'on sait que quand il va se rendre compte, il fera Yéhouch. Ok, quand il va se rendre compte, il va le chercher, il va retourner toute la maison et il finira par faire Yéhouch. Peut-être maintenant, peut-être dans 10 ans même. Quand il fera un déménagement, il dira, bon, quand on fera le déménagement, on retrouvera. Il fera le déménagement, il ne va pas le retrouver. Il va faire Yéhouch, c'est fini, il va l'abandonner son objet. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, il fera Yéhouch. Mais il va faire Yéhouch sur son objet. Donc puisqu'il a fait Yéhouch, depuis maintenant, je considère que rétroactivement, le Yéhouch est fait. Donc a priori, j'ai une preuve pour Rava, que le Yéhouch rétroactif, ça marche.
C'est complètement fou. Regarde.
Est-ce que vous voyez comment on prend les cas, on tourne dans tous les sens pour prouver ce que Rava a dit ? Parce que c'est révolutionnaire ce que Rava a dit. La Gemara, pourquoi elle cherche ? Moi, une bonne question, Yakov. Le commentaire pose la question, mais pourquoi la Gemara cherche à amener tellement de preuves sur Rava ? Parce que ce que Rava a dit, c'est très révolutionnaire. Le concept du Yéhouch rétroactif, que même si le Yéhouch n'a pas encore été fait, puisque quand la personne va le... Certainement que quand la personne va se rendre compte qu'il va abandonner, alors je considère depuis maintenant que c'est Yéhouch. C'est révolutionnaire.
tu imagines dans la peau de la personne, tu es invité à un mariage, d'accord? Tu vois qu'on offre à la mariée ou au marié un objet qui ressemble vachement à un des tiens, d'accord? Tu rentres chez toi, tu veux regarder où il est ton objet pour qu'on ça, et puis tu ne le trouves pas.
Immédiatement, tu ne seras pas
Yehoud. Tu sais, ça me rappelle ce que j'ai entendu en Israël. Tu sais, en Israël, ça arrive très souvent, les gens qui reçoivent des cadeaux, ça arrive surtout dans les époques des bar mitzvot. Ouais, les gens, ils reçoivent un cadeau. Ça c'est arrivé plusieurs fois. Hein. Une personne reçoit un cadeau d'une bar mitzvah.
Il est venu chez l'offreur.
Et il l'offre à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre va re-offrir ça à l'offreur.
Dis-moi, alors comment le Bedin... Tu
sais, dans les familles orthodoxes, ils ont plein d'enfants. Tu sais, c'est, la rotation va très vite. Hein.
Mais comment le Bedin, alors, il traite ça aucun ou je vole, je vends ou j'offre, peu importe, l'objet. Je le vends, c'est plus important. Je le vends à une autre personne. Ce objet a un signe, un siman. Celui qui est volé reconnaît chez celui qui l'a acheté le siman. Le voleur, lui, on le retrouve plus.
Ah.
À qui appartient l'objet?
Là, dans ce cas-là, on dit Machenatan Natan. C'est-à-dire que celui qui a l'objet, il peut dire, moi, j'ai acheté l'objet.
Ou on me l'a offert.
On me l'a offert. Moi, je connais pas tes histoires. Va me chercher le voleur d'abord. Tu cherches le voleur. Et
je connais pas le voleur. Il n'y a que le reseller qui est le reseller. Celui qui a acheté connaît le voleur. Moi, je connais pas le voleur. Si je connais
d'accord.
Le voleur, j'aurais intercepté.
Oui, mais regarde, écoute-moi bien. Imagine-toi que, bon, on va dire que c'est moi le voleur. D'accord? Je vole un objet chez Daniel, je préserve, et je la donne jamais chez M. Bismuth. Jamais l'objet chez M. Bismuth. Monsieur Daniel, un jour, il va chez M. Bismuth, il retrouve, mais c'est mon objet, c'est ça ce que j'ai perdu. Très bien. Donc, ils vont au Beit Din, les deux. Le Beit Din demande à M. Bismuth, il dit, est-ce que vous avez un contrat que vous avez acheté cet objet? Il dit, oui, j'ai un contrat. À qui il a acheté? À moi. Très bien. Il va voir M. Daniel, il dit, est-ce que vous avez un contrat vous aussi? Il lui dit, oui, j'ai un contrat d'il y a 10 ans. Alors il dit, oui, mais M. Bismuth, il a un contrat lui aussi. Il a un contrat qu'il a acheté de chez moi. Donc peut-être que M. Daniel, vous l'avez vendu à lui. Donc il faut qu'on me retrouve à moi maintenant. Et me demander à moi, est-ce que j'ai un contrat que j'ai acheté de Daniel pour le revendre à Bismuth. Donc tant qu'on ne me retrouve pas, c'est M. Daniel qui est bloqué.
Est-ce qu'on ne sait pas si tu l'as volé ou
bah oui,
l'as vendu?
Peut-être qu'il l'a vendu.
Terrible. Le pauvre.
C'est pour ça qu'on dit Maché Natal, Natal. Ce qu'il a donné, il a donné, on peut pour rien faire.
Bon, alors Daniel, tu l'as vendu ou tu l'as volé?
Donc, a priori, on a une preuve pour Rava ici. Je finis avec ça. A priori, on a une preuve. Allez, messieurs, on finit. A priori, on a une preuve pour Rava. Quelle preuve on a pour Rava? On a une preuve pour Rava que, ici, dans le cas du cambrioleur, c'est un vrai cas de Yehoud rétroactif. La personne n'est peut-être pas encore au courant. Qu'est-ce qui répond la Gemara? Tire Gemara Papa a expliqué cette braïta. Qu'en vérité, tu as raison, effectivement, il faut expliquer que dans cette braïta, on ne parle pas d'un cambrioleur standard. On parle de quoi? On parle de l'istim mezouyan. D'accord? On parle d'un cambrioleur armé, d'un hold-up, exactement. Quelle est la différence entre le cambrioleur et le hold-up? C'est que le cambrioleur, il n'est pas forcément armé. Donc il cherche à se cacher au maximum. Alors que le hold-up, le gars il défonce la porte, il a peur de rien, il est armé. Donc là on dit que certainement que le propriétaire est au courant.
Ben oui.
Donc c'est plus un yéhouche rétroactif, c'est un yéhouche actif. Donc effectivement, tu as raison. Il faut expliquer que quand on parle de cambrioleur armé. Donc là, c'est un hold-up, c'est plus la même chose. Mais tu as raison, effectivement, qu'il faudra expliquer que si c'est un cas de cambrioleur qui n'était pas armé, et que bon, on a perdu un objet, mais on ne sait pas quand on l'a perdu.
Bon, on parle du flagrant délit.
Là, effectivement, tu as raison que, a priori, c'est un problème. L'objet, on ne pourrait pas le prendre. Alors, Iachi, c'est comme ça, la Gemara répond et dit, Iachi, c'est comme ça, Aïnou Gazlan. Si c'est comme ça, si je suis ce que tu me dis, que le cambrioleur ici c'est un cambrioleur armé, donc c'est comme le gazlan, c'est la même chose. Quelle différence entre le hold-up et le voleur qui vole, comme on me dit, à l'arraché? C'est la même chose. Alors la Gemara répond, elle dit, très gavené gazlan, il y a deux types de gazlan. Ça veut dire quoi deux types de gazlan? Vous avez le type de gazlan qui vole dans la rue, et vous avez celui qui va rentrer chez vous, armé. D'accord, quoi qu'il en soit, c'est deux types de cas. Mais effectivement, Abaye se défendra en expliquant que la Mishnah ici parle d'un cas de. Enfin c'est une braïta ici. La braïta parle d'un cas de voleur armé. Donc dans ce cas-là, voleur armé, c'est-à-dire il n'a pas peur, il défonce la porte, donc le propriétaire est au courant. Et effectivement, tu as raison que si c'était un ganav, si c'était un voleur, un cambrioleur, pardon, qui n'était pas armé, ben là effectivement ça pose problème. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui et on continuera à la semaine prochaine.
Julien Sedov, donc Refou HLMA, bon, c'était un petit peu fatigué. Je voulais te dire, tu vois, tu n'es pas là, on va faire Hazara.
je te fais défaut. Hein, tu vois là, déjà t'es pas là, je te fais défaut. Je vais aller avec quelqu'un d'autre. Allez, salut.